ça va toi aujourd'hui?
Là je me sens bizarre.
C'est pas,
je suis pas du tout, je te touche.
Oh, j'ai encore un truc à dire.
Non, non, ça va pas trop.
Oh là là, je me sens bizarre.
Non, c'est comme je suis en train de raconter.
J'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais qu'est-ce qu'on raconte? Bah ouais, on passe à la radio.
Silence Radio. La radio des schizos, la radio des parano, la radio des gens pas réglo.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 FM et c'est l'heure de l'émission Silence Radio. Bonjour à tous en studio, salut Mireille, salut Pascal, salut, salut Sana et salut. En régie, salut Suzy et salut Julie. On dit aussi bonjour aux autres fourmis travailleuses de Silence Radio qui ne sont pas là avec nous en ce moment. On dit bonjour à Aurélie, à Gwendoline, Valérie et Chantal.
Bonjour.
Salut à vous.
Bonjour.
Et on redit encore une fois bonjour à nos invités du jour, Pierre Ahmed, bonjour.
Bonjour.
Et Mounia, ton nom de famille, je n'avais pas noté ton nom de famille.
Mais... Ahmad.
Ahmad, très bien. Alors, je présente un peu le thème d'aujourd'hui. On va parler ensemble du contexte actuel, entre autres du Covid. Quelles sont les conséquences de ce virus sur les soins en santé mentale? Jusqu'à quel point peut-il transformer les rapports entre soignants et soignés? Et ces rapports, nous allons les creuser. Assiste-t-on à une régression dans les liens entre professionnels et personnes en trouble? En ces temps de Covid, nous avons entendu des voix s'élever contre une gestion managériale des soins de santé. Pensons au mouvement Santé en lutte. Nous regarderons aussi en quoi cela atteint le secteur de la psychiatrie. Pour en parler, donc, nous avons invité Pierre Ahmed. Je vous présente, vous êtes assistant social, travaillez à l'admission des personnes à l'hôpital psychiatrique Sans Souci. Vous êtes responsable de la qualité de l'institution ainsi que délégué syndical.
Oui.
Et toi, Mounia, tu es philosophe et infirmière de formation. Tu as longtemps travaillé en hôpital psychiatrique et aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe du centre de jour Le Canevas en tant qu'infirmière.
C'est exact.
Voilà, si vous voulez prendre quelques minutes si, pour ajouter des choses pour vous présenter ou on passe directement au cœur.
Ça ira.
Ça ira, oui.
Ça ira. Qui veut lancer une première question? Ou je peux très bien le faire, c'est comme vous. Donc, dans vos travaux respectifs, est-ce que vous sentez une forme de pression par rapport aux nouvelles mesures dans cette situation du Covid? De manière tout à fait générale, voilà, une pression.
Enfin, ça dépend ce qu'on entend par pression. Mm-hmm. Maintenant, enfin, s'il y a pression, c'est plutôt autour de, voilà, des nouvelles contraintes qu'on voit apparaître dans notre travail au quotidien, à savoir gérer finalement tout ce qui est en lien avec le Covid, prévoir le test des patients, s'assurer du port du masque pour peut-être les équipes soignantes en permanence durant l'hospitalisation des patients, où on peut-être voilà, une plus grande part de travail de, entre guillemets, flicage, je vais dire, ou voilà, enfin, c'est pas facile.
Toi, c'est facile pour... Oui. Pardon, excusez-moi, je vous coupe, pardon.
Non, je disais simplement que c'est facile pour personne, et en psychiatrie, ça peut l'être d'autant plus, et ça nuit peut-être aussi au lien qu'on peut avoir.
Exactement, on va essayer d'en venir sur ce sujet-là après. Toi, Mounia, de manière tout à fait générale, est-ce que tu ressens de la pression?
Mais la pression, c'était surtout celle de à quoi on a affaire, comment on va ajuster les relations humaines dans un centre de jour où on travaille principalement sur le collectif et la vie quotidienne, et à la fois ne pas ignorer, puisque c'est impossible, les nouvelles conditions de travail, quoi. Sans tomber dans quelque chose justement de cette pression de l'ordre du flicage, justement, de ne pas se laisser prendre. Quoi.
Il y a une question pour Mounia. Pour Pierre aussi. Avez-vous constaté une forte augmentation des mises en observation psychiatriques?
Moi, je ne saurais pas répondre parce que je ne suis plus dans ce contexte-là, donc je ne sais pas l'observer.
Chez nous, à Sans Souci, il n'y a pas de service de mise en observation non plus. Maintenant, ce dont il a été question à certains moments donné, c'est de pouvoir délester les hôpitaux qui disposent de ce type de service pour pouvoir accueillir davantage de patients mis en observation. Donc, nous, enfin, on était appelés au départ à accueillir plus de patients en provenance de ces unités-là, de manière peut-être plus automatique. Mais finalement, de ce que j'ai pu voir, ça s'est peu produit, en tout cas vers chez nous. Donc voilà, donc du coup, c'est difficile de répondre à la question.
J'ai eu connaissance des chiffres, en fait, de l'explosion des mises en observation tout à fait dernièrement. Donc, effectivement, il y a eu une explosion du nombre de demandes d'expertise et de mise en observation. On voit des personnes avec des pathologies excessivement lourdes qui ne sont pas donc demandeuses de soins. Il y a des violences, il y a une explosion aussi du nombre de demandes d'expertise, enfin, c'est ce que je disais, et un affaiblissement de l'offre de lits et des équipes soignants. Donc voilà. Il y a un hôpital, je pense aussi, qui s'est retiré des expertises et des mises en observation. Donc ça a accentué la surcharge des autres partenaires. Les services sont saturés. Il y a une question de dangerosité qui se pose et il y a risque aussi de retrait d'autres services. Donc voilà, ça c'est les informations, les dernières informations que j'ai eues. C'est pour les mises en observation. Donc on imagine qu'on peut extrapoler à partir de ça. Pour dire que la situation est effectivement excessivement grave et que les personnes qui n'ont jamais été en contact avec la psychiatrie vont y avoir recours, quoi. Et on ne sait pas très bien qui. Est-ce que ce seront des personnes qui ont perdu leur travail et qui tout d'un coup se sentent complètement démunies? Donc voilà, mais moi j'avais quand même envie de demander d'abord, donc vous travaillez, Pierre, dans un hôpital psychiatrique, Mounia dans un centre de jour, comment était l'ambiance dans les services de manière générale? Comment réagissent les personnes hospitalisées et comment réagissent les équipes soignantes? Donc tu dis les équipes soignantes, elles réagissent en faisant les choses, j'imagine, en essayant d'ajuster et tout. Mais les personnes, comment elles réagissent, en fait? On y a, oui.
Il y a eu plusieurs étapes, et je pense que c'est pas très différent de ce qu'on a vécu tous ensemble depuis le début du confinement jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire d'abord savoir à quoi on a affaire, puis essayer de respecter des choses, le temps de comprendre. Et puis, en tout cas, nous, dans le service, la priorité, ça a été... si c'est quelque chose de très grave, comment on va éviter dans une maison qui est une vieille maison de maître où il y a 50 avec nous personnes qui circulent dans la maison, une contamination? C'est presque impossible, mais comment on peut assurer une continuité des soins sans casser quelque chose? Et puis il y a aussi le fait qu'on doit encaisser personnellement aussi la situation humainement et par rapport à nous, à nos familles, etc., avec cette idée de télétravail, possible, pas possible. Enfin, il y a eu toutes ces questions-là qui sont arrivées. Et donc, au début, on a divisé l'équipe en deux. Et on a décidé de pouvoir continuer à recevoir les gens dans le centre de jour, mais plus dans ce côté familial et de vie quotidienne. Ça, c'était vraiment plus possible. Mais par contre, on a dû faire face à un retour de solitude... un retour à la solitude et à l'isolement vraiment énorme, à des freins vis-à-vis des institutions qui ne voulaient pas qu'on aille à l'extérieur ou à domicile. C'était beaucoup de choses par téléphone, création de blogs, création de groupes WhatsApp, des envois de cartes postales. C'était beaucoup de petits trucs et c'était un peu sans contact physique. Donc il fallait imaginer en fonction de ce qu'on entendait par téléphone, en fonction de ce que les collègues racontaient, des différents contacts, ce qui pourrait garder le lien et comment on pouvait traverser ça ensemble. Donc voilà, ça a été la priorité, quoi.
Et Mounia, maintenant, avec toutes ces mesures et tout ça, et le fait qu'il y a eu le confinement, etc., est-ce que tu ne penses pas que ça peut rendre un peu fou? Et si on n'est pas fou, commencer à faire devenir ou... augmenter les symptômes, quoi.
J'ai pas vu de personnes vraiment devenir, plus folles, si on doit le dire comme ça. Par contre, chacun s'est retrouvé face à lui-même, face aux fragilités, face à quelque chose qui transforme un quotidien de façon radicale, et donc sous des formes différentes et des degrés différents, on a vu les fragilités se mettre à nu. Et puis on a dû se rendre compte de les observer, que ce soit pour des collègues ou pour des personnes. Et puis on a vu aussi des ressources, des gens qui ont trouvé des ressources et qui ont développé, qui ont montré leur force pendant tout ce confinement, des réseaux de personnes qui allaient à vélo pour faire des courses pour quelqu'un d'autre, des tas de choses très très différentes qu'on ne pourrait pas voir si les choses avaient continué de façon habituelle. Et donc c'était à la fois très beau et très dur, parce que c'était à la fois l'isolement et à la fois la vie qui essayait de trouver un chemin dans ce truc-là.
Je vous vois acquiescer, Pierre Ahmed.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Mounia. J'ai observé des choses assez similaires. Maintenant, aussi au départ, ça a été une grande perte de repères pour tout le monde, je pense, soignants et soignés, avec beaucoup de fins d'hospitalisation, parce que les patients ne voulaient pas être confinés sur place, simplement. Et donc, sans doute que ça a dû créer d'autres symptômes ou empirer certains symptômes. Mais je pense qu'on pourra le voir que peut-être dans un an ou deux, vraiment, enfin, si on pouvait faire une analyse un peu plus fine de ce qui s'est passé durant ces mois, je pense que ça montrerait effectivement... dans certaines situations, une augmentation des symptômes et aussi voilà, la révélation de ressources insoupçonnées de la part de certains. Mais maintenant, c'est difficile de faire la part des choses dans tout ça, en fait, de mon point de vue.
Donc, j'entends tout à fait alors qu'il y a vraiment un versant positif parmi les personnes que vous côtoyez dans vos travaux respectifs, dans vos travaux respectifs. Et toi, Mounia, tu disais non, pas la folie, tu n'as pas constaté ça, en tout cas que la folie avait augmenté, tu parlais plutôt de fragilité. Est-ce que, quand même, vous n'avez pas eu, c'est ce que les médias nous renvoient, moi je trouve, en permanence, est-ce que vous n'avez quand même pas eu, devant vos yeux, la problématique de l'isolement qui vous a un petit peu sauté aux yeux?
Elle était déjà fort présente avant.
Oui, tout à fait. Est-ce que le contexte actuel n'a pas encore exacerbé? Mais c'était tout à fait présent avant, je suis bien d'accord.
C'est difficile, comme je dis. J'ai réfléchi à la question avant de venir et je me suis dit, c'est difficile aujourd'hui de dire oui, ça a augmenté, ça a diminué, ça a changé. Tellement, cette problématique-là est présente depuis toujours.
Et peut-être l'isolement, pas forcément, enfin peut-être aussi l'isolement psychique, peut-être une certaine solitude qui est peut-être encore plus marquée qu'avant, quelque chose de plus compliqué pour entrer en lien.
Il y a des personnes qui se sont senties vraiment enfermées et qui sont renfermées dans un univers de plus en plus petit. Et que je pense que c'était vraiment difficile de ne pas vouloir aller quand même chez elle, d'essayer de tenir une espèce de tension de présence tout en n'étant pas présent physiquement, par un contact téléphonique ou par des cartes postales où on allait déposer des livres si elles avaient besoin. On demandait un peu s'ils avaient besoin de livres d'art ou de musique. C'était plus des dialogues comme ça. Et des gens sont restés vraiment très longtemps dans leur lit, par exemple. Il y en a d'autres qui ont vraiment mangé ou arrêté de manger, qui ont pris des kilos. Vraiment, il y a vraiment, en fonction de la période de la vie, au moment où ça arrive dans l'histoire de quelqu'un, ça a eu un effet terrible. Mais je crois que oui, il y a quelque chose où ça... que ça fait partie du fil de l'histoire de la personne et que donc après ça a encore d'autres effets et que ce qui s'est passé avec le lien qui continue aujourd'hui et qui reprend des autres formes, ça peut encore devenir autre chose. Mais sur le moment, oui, il y avait vraiment pour certaines personnes, c'était inquiétant.
C'est ça. Sana, je te voyais, tu voulais intervenir.
Oui, donc une question. Donc apparemment, vous avez constaté une aggravation de certains symptômes chez certains patients. Donc c'était un peu plus aigu, je pense. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez des délais d'observation précises
Bonne question, oui.
C'est-à-dire, est-ce que vous gardez le patient par rapport à un certain délai? Vous vous dites, voilà, une semaine, 10 jours
Mais nous, on n'est pas un service de soins hospitaliers. Donc, c'est, les gens, ils ont une convention qui est renouvelée régulièrement pendant 5 ans. Donc, tant qu'on est en lien et qu'il y a un projet thérapeutique, on reste en lien comme on le peut, comme c'est possible, en fonction du contexte. Donc, il n'y a pas cette question de délai. Et même pour les personnes pour qui la question du délai s'est posée, il y a eu des introductions de recours.
Okay.
Et beaucoup de choses ont été, au niveau institutionnel, permises au niveau des recours. Je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui, où il y a une nouvelle habitude de fonctionnement avec les nouvelles réglementations, les délais ou les recours par rapport à la qualité de soins ou à ce que ça demanderait sont plus compliqués. Il y a quelque chose qui est peut-être maintenant en train de se rigidifier. Mais au début, il me semblait que tout était ouvert à tout niveau, parce que personne ne savait vraiment à quoi on avait affaire. Et les institutions qui devaient décider sont restées plutôt silencieuses et soutenantes tant qu'elles avaient les moyens de pouvoir soutenir, on va dire, financièrement.
Oui, par rapport justement à une distanciation sociale. Justement, maintenant, il faut garder une certaine distance, un petit peu même émotionnelle peut-être. Est-ce que vous ressentez ça un petit peu?
Juste intervenir pour te demander, Mounia, ou toi, Pierre Ahmed, de répondre en très peu de temps, parce qu'après, on va devoir passer à une chronique. Okay. Voilà.
Ok.
Donc. Peut-être,
ou voilà, excusez-moi, mais c'est le timing.
Pour parler de la durée de séjour, de fait, elle s'est allongée par les périodes d'isolement qui étaient systématiques au départ des hospitalisations. Maintenant, la durée de séjour en psychiatrie, ça fait toujours débat. Enfin, beaucoup ont tenté d'établir une durée de séjour pour tel diagnostic, mais sans y parvenir. Donc, dire que, enfin, évaluer l'impact du Covid sur la durée de séjour,
il est peut-être trop tôt.
C'est sans doute encore trop tôt.
Ça.
Et c'est difficilement observable parce qu'il y a tellement de facteurs qui influencent la durée de séjour que ça va être,
ça
mériterait une analyse fine spécifique.
Ben, on va continuer avec toi, Mireille. Et je crois qu'on va un peu rester dans le contexte du Covid parce que tu as un slam qui est un peu lié à ça. Et on t'écoute tous.
Converser du corona, de la politique, et parler de soi et de sa limite psychologique, est-ce narcissique? J'ai trop à digérer, trop à porter, comme une envie d'évacuer, de pleurer, de laisser tout déborder. Moi, j'entends tout et son contraire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est exemplaire? Je ne comprends rien, je ne connais rien, rien que le trop, ou son contraire, l'isolement, le désert. Besoin de sortir de ma cage, je suis enfermée entre déni, oubli, repli, obligation, interdit. Je suis prisonnière. Il n'y a plus de frontières, de langues, de couleurs, de valeurs, que du chaos. Tout doit sortir. Qui pourra me sortir de moi? Me sauver de moi, en vain j'appelle alors que tout le monde appelle. Je lance la bouteille dans l'océan. Je me sens me noyer, je crie vers l'autre. Mais qui suis-je pour qu'on me libère? Et qui est l'autre pour me libérer? Ça va. Il y a pire. Mes jambes tremblent, je rumine. Je suis dans un manège, j'ai le tournis. Je risque l'explosion de surplus ou l'abandon d'activité, d'information. Je suis ni noyée ni sortie de l'eau, je suis prisonnière. Le temps fera le reste. Je m'active à broyer le temps, à le laisser se perdre comme je le suis maintenant. Celui qui n'a jamais été perdu. A-t-il un jour trouvé? S'est-il un jour retrouvé?
C'était très très beau.
Très beau.
Après cette petite respiration, on peut. Pascal,
fait, oui, ben je me disais peut-être que donc Pierre, donc tu es référent admission à la clinique Sans Souci. On a parlé d'augmentation de symptômes. Est-ce que tu as vu une augmentation des admissions, par exemple, à la clinique Sans Souci? Est-ce que le profil des personnes qui se présentent a différé, est différent de celui qu'il était avant ou...
Le flux de demandes a continué à être sensiblement le même. J'ai pas noté vraiment de différence. Maintenant, il faut voir. Enfin, moi, je gère vraiment toutes les demandes qui arrivent à l'hôpital et une partie que je traite moi-même, une autre partie que je dispatche aux unités. Maintenant, il faut toujours voir aller plus de manière plus approfondie ce qui se cache derrière chaque demande. Et ça ne se voit pas comme ça dans la quantité, je dirais. Maintenant, c'est sûr que ce confinement, la présence du coronavirus apparaît dans les discours des patients. Mais je ne peux pas dire vraiment que tout le monde d'un coup est venu en disant « je souffre du confinement, je souffre de ce qui se passe pour le moment ». C'est à chaque fois traduit dans l'histoire de chacun. Donc voilà, maintenant, oui, enfin, y a aussi eu moins de demandes à un moment donné aussi. Je pense que c'est dû aussi à la peur d'aller peut-être dans un lieu de soins, pour certains. Dû au fait aussi que nous, on avait arrêté les admissions à un moment donné.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu sortir ? Parce qu'à certains moments, j'imagine qu'il y avait le confinement, donc les personnes n'avaient pas le droit de sortir. En fait, c'est un hôpital ouvert, mais elles n'avaient plus le droit de sortir, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Donc, alors on se dit, elles vont signer une décharge. Qu'est-ce qu'elles font ? Alors, est-ce qu'il y en a eu beaucoup comme ça ?
Il y en a eu quand même quelques-unes, comme je disais. Donc, au début du confinement, il y a pas mal de patients qui sont sortis sans que ce soit, comme on dit, une sortie de commun accord, sans dire que c'est une décharge non plus, mais que c'est une sortie due au fait qu'ils allaient être confinés sur place et que ça semblait pas possible pour eux. Et donc, il y a eu, oui, maintenant, comment quantifier ça ? Je pense que, de nouveau, ce sera une évaluation à faire après coup. Mais oui, ça s'est passé, quoi. Des patients qui n'avaient pas terminé leur parcours, avant cette annonce-là, ils devaient encore accomplir certaines choses, on va dire, ou bénéficier de certains soins, et qui sont sortis parce que ce n'était pas envisageable pour eux de rester dans une unité, oui.
Ce qui est clair, en tout cas, moi, je travaille aussi à la clinique Sans Souci, et ce que j'entends, c'est vraiment pas évident du tout de rester confiné dans un hôpital psychiatrique. Enfin, je veux dire, déjà, chez soi, c'est pas jojo.
C'est sûr.
Mais alors, quand on n'a plus le droit de sortir du tout, parce qu'à certains moments, c'était comme ça. Mm-hmm. Et puis, bon, après, chaque semaine, ça changeait. Alors, on avait droit à 2 jours, ou 2 heures par jour, je ne sais plus tout quoi. Et puis, il y a eu des visites aussi qui ont été organisées à l'entrée dans le réfectoire, hein, à l'entrée de la clinique, des visites pour les proches et tout, parce que les visites étaient interdites aussi. Donc, oui, c'était pas...
La diminution du nombre d'activités aussi, les activités en nombre plus réduit, les groupes de parole qui sont... qui étaient plus marqués par les gestes barrières que par, par le contenu, je veux dire, dans un premier temps, hein, je dis... tout ça, c'est sûr que pour certains patients, du coup, c'était plus possible de rester sans tout ce qui fait soin dans la clinique. C'est juste rester, être alimenté, hébergé.
C'est ça, c'était plus du soin, en fait.
Voilà.
Justement, pour rebondir sur ta réflexion, c'était plus du soin. En préparant l'émission, on s'est d'abord penché sur le contexte actuel en pensant au Covid et on vient d'en parler un petit peu. Et donc, on vient d'explorer. Et puis, on s'est dit que c'était en fait un bon point de départ pour essayer d'interroger le contact, le lien entre les membres, les personnes en trouble et les soignants. En fait, on est aussi parti d'un constat, c'est qu'une personne de notre groupe de Silence Radio a été hospitalisée, en fait. Et voilà, comme vient de dire Pascal, ce n'est pas du soin. Cette personne n'a eu strictement aucune relation avec aucun soignant dans sa durée d'hospitalisation. Et on se trouve, ici à Silence, en discutant, on trouvait que ça valait la peine d'être relevé. Aucune discussion, rien pendant une séance d'hospitalisation. On trouve ça extrêmement dur, quoi. Et alors, on a un petit peu creusé, on s'est dit qu'on aimerait interroger le lien soignant-soigné. Et on voulait avoir vos points de vue par rapport à ça, en fait. Et donc, de savoir si dans votre pratique, la distance soignant-soigné, est-ce qu'elle vous semble juste ? C'est une très grande question. Et on en a plein des grandes questions comme ça. Donc,
On a 2 heures devant nous.
Voilà, c'est la question. Vous pouvez dire j'appelle un ami, vous pouvez dire je ne répondrai pas à votre question, vous pouvez dire ce que vous voulez. On en a d'autres, des questions. Est-ce qu'elle vous semble juste,
c'est cette, juste Qu'est-ce qu'on entend par juste?
C'est une question qui n'est pas nouvelle, en tout cas.
Non, c'est une question qui était présente avant le Covid, qui on trouve c'est un peu exacerbé pendant le Covid. Et tout à fait, pour moi, c'est une question assez, assez longue. Je crois que ça date du début de la psychiatrie même. Enfin, ça peut rejoindre l'accueil de la folie. Ça peut rejoindre... juste, ça peut rejoindre... est-ce qu'elle est respectueuse? Est-ce qu'elle est éthiquement assumable pour un professionnel, ou parfois c'est compliqué?
Je ne sais pas. De mon expérience, en tout cas, j'ai travaillé 17 ans, d'abord 8 ans dans un service de psychiatrie en hôpital général, et puis 8 ans dans un hôpital psychiatrique. Dans les 8 premières années, on était quelques-uns à vouloir travailler cette question de qu'est-ce qui fait soin. Et évidemment, dans la question de qu'est-ce qui fait soin, il y a cette fameuse notion de la distance thérapeutique. Mais on va dire, en lisant des tas de textes, en essayant de travailler sur le collectif, sur des dispositifs artistiques, artisans, sur le lien entre l'intérieur et l'extérieur, l'architecture, enfin des tas de choses de cet ordre-là, il y a quelque chose, il y a une thématique qui revenait souvent, c'était ce qui crée le nous et le eux. Et la distance thérapeutique, elle crée ça. Mais pas seule. C'est tout un tas de notions qui s'articulent, qui créent un eux et un nous pour créer une architecture qui est censée construire un cadre dans lequel on peut circuler et produire du soin. Mais là-dedans, il y a des défauts, quoi. Il y a des défauts parce qu'une fois qu'il y a un nous et un eux, il y a humain, moins humain, plus humain. Enfin, on peut décliner des tas de choses comme ça.
C'est intéressant, ça. C'est extrêmement intéressant.
Et on va dire que la question du Covid ne change pas ça. Cette question du nous et du eux, sauf que c'est infecté ou pas infecté, contagieux ou pas contagieux, à mettre en quarantaine ou pas en mettre en quarantaine ou en quatorzaine. Ou...
Mireille, tu voulais rebondir.
Oui, donc vu qu'on est humain, c'est pas possible, tu penses, que... Enfin, que c'est utopiste, en fait, d'avoir une distance juste ou un espace juste entre le soignant et le soigné.
C'est-à-dire qu'on, pour moi et pour d'autres avec qui on travaille sur ça, il ne faut pas qu'on se trompe de ce qu'on met dans le mot distance thérapeutique, quoi. Parce que la distance, c'est celle qu'on peut avoir par rapport à une situation, par rapport à un événement, pour ne pas avoir le nez dans le guidon, pour ne pas céder à la panique, pour ne pas être trop affecté, parce qu'à ce moment-là, ben, si on est trop en colère ou si on est trop triste, on ne sait pas bien analyser les choses, ça a la couleur de l'émotion par laquelle on est envahi, quoi. Et donc, la distance, c'est simplement ce qui permet d'être pas trop affecté, pour regarder calmement ce qui se passe dans une existence humaine et comment on peut partager et créer des solutions ensemble. Alors, quand on est moins infecté, on a un peu plus de moyens que quand on est tout à fait pris dedans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressources. C'est comment on les mobilise.
Donc, j'ai une question pour vous, par exemple, justement. Est-ce que, au cours de votre carrière, est-ce que vous avez déjà eu de l'empathie pour un patient ou des patients? Et est-ce que ça vous a affecté ou ça vous a même remise en question, peut-être par rapport à votre travail? Ou est-ce que vous avez été voir un référent pour un petit peu vous détacher? Parce que voilà, il y a l'humain aussi qui fait que voilà, on peut être attaché à quelqu'un par ses qualités. Ou...
Moi, j'ai pris un moment de donner le parti. J'étais pas la seule, on était plusieurs. Ce qui a protégé dans ce genre d'expérience, c'est qu'on était un collectif et qu'on se permettait de pouvoir vivre jusqu'au bout quelque chose. Donc j'ai eu de l'empathie, j'ai eu de la sympathie, des tas de choses qui ont été peut-être... J'ai logé des gens chez moi, on a créé à plusieurs le Pianoctel, qui est un lieu autogéré. On était plutôt dans cette idée que la question de la santé mentale ou de la folie ou de tout ça n'appartient pas aux institutions, quoi. Elle appartient à l'homme et à la cité et qu'il y a des tas de choses à inventer là-dedans. Et donc oui, il y a eu des moments où j'ai eu besoin d'aide d'amis ou de thérapeutes aussi pour pouvoir traverser des choses qui ont été trop loin. Mais parce que ça fait partie de l'existence. Et qu'on peut le partager. Alors, on le partage dans la vie et on le partage à partir d'un statut, mais ce n'est pas le statut qui détermine notre capacité à soigner, quoi.
Aussi, une autre question un petit peu qui découle, parce que c'est vrai que l'univers psychiatrique peut faire peur de l'extérieur quand on ne le vit pas de l'intérieur. Des gens sont victimes de troubles psychiques, parfois très, très aigus. On ne le comprend pas tant qu'on ne le vit pas. Est-ce que vous-même, vous avez eu des phases un petit peu où vous avez pu avoir peur d'un patient? Il y a eu peut-être votre sécurité physique qui a pu être mise en jeu à un moment ou un autre. Et comment vous avez réagi par rapport à ça?
N'hésitez pas à répondre, hein, monsieur.
Oui, oui, de me sentir en danger, ça a pu arriver, mais finalement, ce n'est pas très important. Moi, je voulais amener la question aussi selon un regard plus managérial, justement, et de la question de savoir qu'est-ce qui opère dans les soins psychiatriques. C'est une question que j'ai pu aborder selon le concept qui a été nommé le circle care. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu.
Pas du tout.
C'est un concept qui essaie de valoriser justement l'informel dans le soin. Mm-hmm. Et donc justement, ça rejoint l'idée de la distanciation, la distance thérapeutique et tout ça, mais en essayant de traduire en un langage managériel justement toutes ces petites choses qu'on fait dans les unités et qui font soin finalement. Et donc je pense que pour revenir sur la situation actuelle, au niveau de toutes ces petites choses que j'appelle l'informel dans le soin, qu'on a appelé circle care aussi, elles sont mises à mal justement, et que peut-être du coup, oui, si on peut parler de justesse ou justesse du soin, peut-être qu'on est un peu mis à mal par la période actuelle.
Vous avez des exemples de ces petits moment informel de ces petits...
Ça peut être boire un café, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est boire un café, fumer une cigarette avec un patient, tout ce qui n'est pas dans les activités qui sont à l'agenda d'une unité, tout ce qui se passe entre deux portes, tout ce qui se passe...
C'est ça.
Et où, on est en relation justement avec le patient. Fin.
C'est ça. Nous, en y réfléchissant, en préparant l'émission, on a parlé de ça aussi, en fait. Donc, qu'est-ce qui se joue dans la relation entre le soignant et le soigné? Et c'est clair que l'informel est quelque chose qui est assez important. Et en fait, ce qu'on a aussi essayé d'interroger, c'est comme le premier regard qu'on a sur l'autre, comme ça, même avant de lui parler, même avant de l'appréhender, comment ça se passe dans la tête d'un soignant et comment ça se passe aussi dans la tête d'un patient. Qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a la rencontre, quoi, même avant de parler, même avant de prendre un café, qu'est-ce qui s'anime, quoi. Et on avait quelques pistes, nous on a réfléchi, on s'est dit il y a de la peur, c'est par rapport à l'expérience que nous on a pu partager avec d'autres personnes, par rapport à des témoignages, même des lectures, on se dit il y a de la peur dans les deux camps. Alors, on s'est demandé simplement, c'est quoi les causes de cette peur, selon vous? Et si vous êtes d'accord, s'il y a de la peur, je ne sais pas.
C'est propre à toute rencontre.
Vous pensez?
Oui, je pense.
Ouais.
Ça rencontrer l'autre, c'est toujours ça. Ça nous met dans une situation insécuritaire.
Le Dalai Lama, quand il rencontre les gens, il n'a pas peur.
Il ne le dit pas, mais...
Il voit la bonté partout.
Moi, je crois que c'est plus propre à notre société, en fait, occidentale. Et je crois que dans d'autres cultures, le rapport est beaucoup plus fluide, simplement. Je ne sais pas. Enfin, on essaie de creuser un petit peu ça.
Moi, là, j'ai peur. Hein.
On a tous peur. Ici. Mais ici, c'est terrible, ce qu'on est en train de vivre. Les auditeurs ne le voient pas, mais c'est terrible. Autant le dire, quoi. C'est terrible. En fait, on avait un peu creusé aussi ce sujet-là parce que Pascal était venu avec un texte qu'elle nous a lu de Goffman. C'est très intéressant ce qu'il disait. Il disait que donc il y a la profession médicale, donc les soignants, etc., et que la peur venait en fait chez les soignants d'être contaminée par les stigmates des patients. Et là, tantôt Mounia, tu parlais de humain moins humain, et je trouve que ça rejoint très fort cette réflexion là de Goffman. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Mais, On a toujours envie de dire oui quand on dit quelque chose comme ça. Moi, c'est une question qu'on ne peut pas ignorer dans les lieux institutionnels, mais après, c'est toujours la peur du raccourci de ce genre de truc. Mmh, mmh. Bon. Il y a quelque chose qui, par les formations, j'essaye de me souvenir des études d'infirmière et puis de cette idée d'être technicien, de bien faire, de se dire qu'on va bien, qu'on se débrouille pas trop mal dans sa vie, que même si on a des tas d'outils techniques pour un peu lire ce que l'autre vit, ça paraît étrange. C'est comme rencontrer un autre univers, quoi, qu'il faut essayer de décoder. Et il y a un enjeu de vie, il y a un enjeu de réussir, il y a un enjeu de peur parce qu'on se découvre en même temps. Il y a des choses où ça peut provoquer de la colère, où il y a des personnages... mais un peu, qui peuvent provoquer de l'irritation. Il y en a qu'on peut presque être tout à fait fasciné parce qu'il y a de la créativité, parce que ça s'exprime, parce qu'on ne serait pas capable de faire ça. Et donc, c'est des tas de choses qu'on découvre au fur et à mesure.
C'est assez marrant parce que tu parlais de ta formation d'infirmière et puis tu as un peu juste après parlé « on va bien ». Est-ce que c'est quelque chose qui est partagé dans la mentalité des infirmières de se dire nous on est du bon côté en fait de la barrière, quoi. Nous on va bien et eux ils vont pas moins bien,
enfin, je pense que ça commence comme ça.
Oui, tu crois que...
Et je pense qu'à un moment donné on se rend compte que c'est pas si clair. Mais on débarque dans un hôpital psychiatrique, on a 20 ans, quoi.
Ouais, ça doit être quelque chose.
Donc, je veux dire, même en termes d'expérience de vie, enfin, sauf si on a vécu vraiment des choses déjà plus tragiques ou qu'il y a vraiment beaucoup de chance d'avoir rencontré, d'avoir vécu des tas de choses, alors on peut avoir moins peur parce qu'on a déjà de l'expérience, mais ça dépend beaucoup de l'expérience de vie, quand même.
Ouais.
Et de la capacité qu'on a eue de les accueillir ou pas... si on a déjà appris la peur, donc c'est tellement de choses. Et alors les formations viennent cristalliser ce truc-là.
Parce que
ça prend une forme, un statut, quoi, ça se statufie.
Donc, dans le concept du socle care, il y a cette distinction qui est faite en anglais, que je trouve très intéressante, qui distingue le cure du care. Et à l'école, j'imagine qu'on apprend le cure, enfin, à soigner. Le care vient après, quand nous-mêmes on évolue, qu'on prend des années, et que c'est là, c'est qu'à partir de ce moment-là, en tout cas, c'était vrai
donc
pour
c'est
moi.
Une distinction entre le cure et le care.
Ouais.
Donc cure, soigner, et care, prendre soin.
Prendre soin, c'est ça.
Ouais. D'accord.
Mais peut-être qu'on débarque à l'école avec l'envie du care. Et puis qu'on est formé au cure, et puis qu'après on retrouve la question du cure, mais qu'on ne sait plus comment y rentrer, quoi. Parce qu'on a d'autres codes. Et donc le cure, c'est tout ce qui est réparer le monde, quoi. Et donc c'est s'occuper des choses les plus viles, les plus dures, c'est mettre les mains dans la boue ou mettre les mains dans la merde, quoi. Sauf que tout ça, c'est pas très structuré, quoi.
Ouais, voilà.
Et les institutions, ils demandent quelque chose qui est tout propre. S'occuper d'un truc... de façon propre, alors il faut de la distance, il faut que ce soit bien écrit, il faut
ça
que ce soit cadré, voilà. Et parce que ça peut s'organiser, c'est concret. Sinon, on est face à l'invisible, l'invisible c'est abstrait et c'est mou, c'est chaotique et c'est sans pouvoir, quoi. Donc il faut s'y retrouver.
On va y revenir dans la suite de notre discussion. Justement, le poids des institutions et aussi le pouvoir qu'a les institutions, qui est dans les institutions, quelle est la place par rapport en lien avec la relation soignant-soigné. Et maintenant, je vous propose, pour aussi encore une petite respiration, d'écouter encore une fois un slam de Mireille.
On m'a arrangé, placé, mais je tremble et fais tomber les choses tout autour de moi. Ma vie est celle d'une désétiquetée. Si t'es comme moi, comme une pomme, la vie, les vers t'ont bouffé. Ça prouve que t'as du goût, que les gens t'ont cherché, que les événements se sont passés. Tu es atteint, diagnostiqué fragile, et tu te laisses aller ou tu te bats contre ta fragilité. Je n'accepte pas ce que tu t'imagines que je suis. Je ne suis pas limitée à cette image que tu enfermes dans le noir. Pas assez parfaite, tout à fait mal faite. N'empêche que les clichés que tu te fais restent figés. Pendant que moi, j'avance, je suis en continuel mouvement.
Merci.
On avait prévu de passer un morceau de musique aussi pendant l'émission. On pourrait peut-être demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent, parce que en fait, on est en pleine discussion, on a encore plein de choses qu'on aimerait bien aborder avec vous, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de passer une discussion de musique. Donc, si un auditeur qui veut se manifester, qu'il le fasse maintenant. Donc, on va pas passer le morceau de musique.
On va passer aux choses sérieuses.
On va en discuter un petit peu. Et puis, Sana, si tu veux, tu reprendras avec ton slam par après.
Ok, pas de problème.
On en était. Enfin, tu parlais d'institutions, mais tu parlais de beaucoup de choses, Mounia, en fait, de colère, d'irritation, d'attirance aussi vers la créativité de certaines personnes, qu'aller bien, aller mal, c'était pas aussi clair que ça, en fin de compte. Vous parliez aussi du care, du cure, c'était assez intéressant. Et on avait envie de parler aussi des choix de gouvernance, en fait, dans les institutions. Parce qu'on sait par exemple que Titeka, qui est une ASBL, a engagé un manager en fait pour le moment, et vous parliez aussi de manager, de technique managériale tout à l'heure, et moi j'avoue que j'ai des gros a priori par rapport à ça personnellement, le managering quoi, et on se demande nous qu'est-ce que ça fait sur le travail des professionnels de la santé mentale, des types de gouvernance qui sont de l'ordre du management. Si vous aviez des... Voilà. Qu'est-ce que ça fait ?
Moi, je dirais qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que dans la gestion de nos institutions, on a besoin d'outils. Peut-être que ça ne plaît pas, mais je pense qu'en termes d'évaluation, en termes d'observation de nos activités, on a besoin d'outils. Maintenant, ces outils ne doivent pas devenir des fins. Et c'est peut-être là où...
Je me permets, tu trouves des outils alors dans les pensées managériales ?
Oui.
Oui, c'est ça. Oui. Et qu'est-ce qui fait pour toi la spécificité de ces pensées-là ?
C'est peut-être le côté rationnel. Enfin, on a quand même, on a quand même besoin d'être financé. Donc il y a des chiffres. Il faut pouvoir compter certaines choses et essayer d'être le plus efficient possible, de faire plus avec la même chose et pas verser dans le faire plus avec moins. L'enjeu, il est un peu là aussi. Et donc, pense qu'on a besoin aussi d'avoir un regard pour certaines choses un peu plus rationnel pour que le soin psychiatrique soit disponible pour le plus grand nombre et le plus accessible et de la meilleure qualité qui puisse être. Maintenant, voilà, ce qu'on observe, c'est que souvent, les outils deviennent des fins. Je m'occupe personnellement du RPM, le résumé psychiatrique minimum, qui était censé être un outil justement pour identifier des durées de séjour, comme on en parlait au début de l'émission, type, et tout ça. Force est de constater que maintenant tout le monde remplit les données RPM pour remplir les données RPM et que ça n'a jamais...
Excusez-moi, c'est quoi RPM ?
Donc le RPM, c'est le résumé psychiatrique minimum, et c'est un ensemble de données qui sont enregistrées pour chaque séjour d'un patient. Et donc c'est des formulaires avec des croix à cocher.
Par exemple, les types de...
Les données, ce sont tout simplement les diagnostics, les modes d'admission, toute une série de données sur les soins infirmiers, mais ça a déjà été supprimé. C'est en train d'être vachement allégé. Maintenant, ce n'est plus que la durée de séjour, diagnostic. Avant, c'était beaucoup plus complexe que ça. Mais force est de constater que finalement, le retour aux institutions, il est quasiment nul. Et que donc, l'outil, comme je l'ai dit, devient une fin. On doit rentrer ces données-là pour justifier un financement. Mais en termes d'évaluation, justement, comme je disais, ça ne nous apporte rien. Donc, ça, c'est la dérive. Tout ce qui est contrat qualité, par exemple, aussi, ça a tendance à devenir une fin. Les hôpitaux, soit les hôpitaux généraux, c'est plus complexe du côté des hôpitaux généraux, mais les hôpitaux psychiatriques sont toujours tenus de rencontrer un contrat qualité dans lequel il nous a demandé d'implémenter toute une série de méthodes
qui, en fonction de l'institution, sont pertinentes ou pas.
Mmh. Enfin,
voilà, pour ne pas rentrer plus dans le détail. Mais donc, voilà, moi, je dis, il y a certains outils qui sont très intéressants, notamment, par exemple, la notification d'incidents. Ça peut être intéressant pour observer un processus de soins, comme par exemple le plus célèbre chez nous, le trajet du médicament. Là, garantir la sécurité du patient par rapport au médicament, je trouve que c'est un droit au patient.
Mmh. Sana, tu voulais dire quelque chose?
Oui, en fait, j'aimerais vous poser une question par rapport à un côté managériel. Oui. Justement, est-ce que c'est encore humain, ce côté managing, justement, de quantifier chaque patient alors que justement, le but, c'est qu'ils guérissent. Mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi financier. Justement, vous devez rendre des comptes à des institutions. Je pense que ça a dû changer. Je ne sais pas combien de temps vous avez travaillé dans ce métier. Est-ce que vous avez vu, au cours de ces dernières années, des changements? Est-ce que vous avez dû suivre des formations pour être encore plus dans ce côté managing et oublier peut-être parfois l'aspect un petit peu humain, cette donnée, justement?
C'est sûr que quand on appréhende l'activité d'un hôpital psychiatrique sous cet angle-là, on a l'impression que ce n'est pas humain, que c'est que du rationnel. Mais comme je dis, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et je pense qu'il y a des dérives dans l'autre sens aussi. Maintenant, c'est sûr qu'on va de plus en plus vers une société de la transparence où il faudrait en deux clics sur un site, le site d'un hôpital, voir s'il est performant ou pas.
Ça, c'est
aussi une dérive. Maintenant, il y a des dérives dans d'autres sens aussi, avec des gestions financières calamiteuses qui ne profitent à personne finalement non plus. Donc, comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? C'est une réflexion qu'on doit avoir tous les jours, en tout cas que moi j'essaie d'avoir tous les jours dans ce que je fais. Et ce que je constate par contre, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils, de méthodes qui nous sont présentées comme révolutionnaires, qui finissent par être plutôt des fins, et là, tout le monde s'y perd.
On va rester sur cette idée-là, alors, de fin, qui est un peu dangereuse, alors si ça devient une fin en soi.
Ouais.
Et je te propose, Sana, qu'on passe à ton slam.
C'est plutôt une histoire, donc, dont le titre est Adam. Il avait cette insolence et inconscience que seuls possèdent les gens et ont reçu le don de la beauté. Son regard, quand il se posait sur vous, vous retournait littéralement l'estomac. Souvent, les gens le regardaient les yeux écarquillés et mettaient plusieurs secondes avant de reprendre leurs esprits. Il lui parlait souvent avec déférence, le regard baissé de peur d'être troublé par son regard perçant, qui avait comme volé un bout du ciel. Le bleu de ses yeux reflétait une lumière intense. Son nez était fin, presque féminin, et sa bouche aux lèvres charnues était une promesse à de futures douceurs interdites. La peau qui tendait ses pommettes saillantes avait une carnation surnaturelle, proche de la perfection. Il était grand de taille, presque 2 mètres, une manière supplémentaire pour signifier sa hauteur par rapport aux autres. Malgré sa taille, il se déplaçait avec l'agilité d'un félin. Souvent, les gens s'écartaient de lui volontiers pour l'admirer le temps de son passage. Pourtant, ce jour-là, Adam Reiner était assis au banc des accusés. Il était jugé pour un crime qu'il était supposé avoir commis. Mais sa beauté semblait freiner les membres du jury à prendre la bonne décision. Ils l'observaient tous régulièrement avec les yeux mi-clos pour ne pas être influencés par l'aura qu'il dégageait. Même la juge n'osait le regarder en face. Il était accusé d'avoir dérobé un bijou d'une valeur inestimable, un diamant dont on n'avait jamais osé mettre un prix. Il était venu à l'exposition ce jour-là et avait charmé la vendeuse, qui avait ouvert la vitrine pour lui montrer. Il avait saisi la pierre et était parti tranquillement d'un pas assuré. La vendeuse était restée bouche bée devant ce vol audacieux et n'avait osé le poursuivre. Les caméras de surveillance, pourtant, avaient capté son image. Et la police, rapidement, vint l'arrêter dans la soirée. Même l'arrestation par les policiers aguerris s'était déroulée dans un calme olympien. Ils ne lui ont pas mis les menottes, alors que c'était la procédure. Pour l'heure, le jury, après avoir entendu les témoins, se retira pour délibérer. En revenant, une membre du jury lui jeta une œillade langoureuse. Il fut déclaré coupable d'un geste d'égarement. La peine requise, 30 heures de travaux d'intérêt généraux. Jamais une peine aussi légère fut infligée pour le vol d'un diamant de cette valeur. Adam sortit libre sous le hurra de quelques admiratrices agglutinées pour guetter sa sortie. Il les salua avec ce sourire qui ferait fondre une banquise.
Super, merci Sana.
Merci.
Merci. Bah, sans transition, on passe à ta chronique, Pascal, L'Uvu Entendu.
À L'Uvu Entendu, c'est une chronique, effectivement, c'est une chronique sur ce que j'ai lu, vu et entendu au cours du mois, qui a précédé l'émission. Et aujourd'hui, j'ai vu, de mes yeux vus, que la troupe de théâtre L'Appétit des Indigestes remontait sur les planches. Tout prochainement d'ailleurs, puisque ce sera ce vendredi 24 octobre au cinéma Nova, dans le cadre du programme Nova intitulé « À la folie », un programme qui se terminera d'ailleurs ce week-end. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du cinéma, rencontres, performances, courts-métrages. Il y en aura donc pour tous les goûts, pour tous les budgets, puisque les articles 27 sont acceptés. Important à savoir, il faut arriver une demi-heure avant la séance et il n'est pas possible de réserver. Mais anosognosie, qu'est-ce que c'est que ça? Oublions le terme médical et penchons-nous un instant sur la troisième pièce de L'Appétit après L'Homme d'11h15 qui abordait la folie du point de vue de la personne. Et puis la seconde, eux, qui l'exposaient du point de vue des soignants et de l'hôpital. Et enfin, donc, anosognosie, qui l'expose plutôt du point de vue de la société. Une heure de spectacle sur scène, 22 acteurs, quelques chaises, et voilà tout. L'idée de la troupe, une des idées de la troupe, poser des questions plutôt que de donner des réponses. Le spectacle, ça fait vraiment partie de l'esprit de cette troupe, sera suivi d'une rencontre avec Sophie Musel, qui est metteuse en scène, Pierrot Renaud, qui est assistant metteur en scène, et les 22 acteurs de la pièce. Alors, c'est pour vendredi. Si vous avez, comme moi, envie de remonter sur les planches, il ne faut pas spécialement aller à la pièce des Indigestes, bien que ce soit une bonne idée. On peut aussi aller, par exemple, si on a envie de rester dans le milieu de la santé mentale, à l'espace 51. On n'en parle pas beaucoup. Mais il existe, il est à Scarbec, rue Thieffry, et c'est un espace qui propose des ateliers théâtre. Il y a aussi, bien sûr, toutes les troupes amateurs dans les quartiers qui peuvent proposer des ateliers et des pièces dans lesquelles jouer quoi, et s'amuser. Voilà.
Ben, merci beaucoup pour ces infos. Je propose qu'on clôture là, à moins que quelqu'un ait envie encore de poser une question aux invités. C'est encore possible, on a encore 3-4 minutes. Donc,
on va en profiter.
5 minutes. On va en profiter, très bien.
On va en profiter. comment Pierre et Mounia, vous avez vécu cette émission?
Question traître, attention.
Oui, en toute honnêteté,
comme j'ai dit, moi j'avais
peur. Vous avez peur, oui, c'est ça.
Propre à toute rencontre. Mais non, c'est une première expérience pour moi. Je trouve que c'est une ambiance très bienveillante, donc je suis ravi d'avoir participé à cette émission.
Et on avait, tu pourras répondre aussi, hein. Mais on avait une question aussi, qu'est-ce qui vous a animé dans le choix de votre profession et est-ce que vous regrettez maintenant avec le Covid votre profession?
Même sans le Covid, hein, est-ce que vous regrettez
On va sortir déprimé.
Et est-ce que vos collègues vous écoutent? Pensez-y, parce qu'on ne sait jamais.
Certains de mes collègues m'écoutent.
Ah, alors, alors on sait déjà que votre réponse va être un petit peu conditionnée.
Moi, je suis contente d'être venue.
Ah, bah c'est cool.
Et puis, c'est des questions importantes, mais il y aurait tellement de choses à dire encore. Mmh.
Ouais. Comment est-ce qu'on peut avancer dans ces questions, Mouniac, qui m'intéressent, moi, personnellement, de la juste distance ou de l'espace thérapeutique? Parce qu'on peut dire espace aussi, c'est pas tout à fait la même chose. Comment on peut aller plus loin dans...
Je n'ai pas de réponse à ça. Je crois qu'il faut être juste avec soi-même et faire confiance à ses observations. Je pense vraiment. Et en tout cas, moi, ce qui m'aide, ça me dit dans quel monde j'ai envie de vivre. Quel monde j'ai envie de vivre, à quoi j'ai envie de participer. Et en essayant de ne pas trop être en colère avec ce qui est actuellement. Quoi. Mmh. C'est pas simple. Mais pas regarder du côté de la colère, quand même. Mmh. Et qu'est-ce qui fait les relations? Regarder le plus simplement, enlever tout ce qui fait le décor, quoi. Voilà.
Tu voulais rajouter un petit mot?
Je continue de croire en ce qu'on fait, malgré toutes les questions qui se posent. Je pense que ça ne me laisse pas ça passer avec tout ce qu'on vit maintenant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien aussi dans ce qui se passe dans les institutions. Et c'est grâce aux gens qu'ils les font, quoi. Voilà.
Ben voilà, je propose qu'on clôture là-dessus et on dit au revoir. Moi, je vous dis tous au revoir ici en studio. Salut Pascal.
Salut.
Merci Mireille, Sana. Merci aux invités, Mounia et Pyramide. Merci pour le studio.
Merci
Suzy,
à vous.
Merci Julie. Et on donne des gros bisous à Aurélie, Gwendoline, Valérie, Chantal. Et on vous dit au mois prochain. Au revoir.
Au revoir,
merci.
Et Sophie aussi.
Ça se gâte dans tous les coins. On attend plus les martiens. Ça va partir. On est tous au premier rang. Pour claquer, ça c'est dément. Magnifique.